suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur L'Aléa, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour déconstruire la vision traditionnelle du risque et montrer ses effets positifs dans nos vies. Tous les 15 jours, j'invite des hommes et des femmes qui viendront vous donner les clés et les outils pour devenir pleinement la personne que vous devez être en prenant les risques nécessaires. Je le répète souvent, mais croyez-moi, c'est la solution pour aider et inspirer le plus grand nombre. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcasts ou iTunes et ou partager les épisodes sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance. Petite news, pour les passionnés de podcasts qui rêveraient de créer le leur, j'ai imaginé la formation dont j'aurais rêvé avant de me lancer. Dans cette formation, vous trouverez le nécessaire pour créer votre podcast et votre identité de marque. Le lien est dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, je suis avec Fanny Moritz. Fanny Moritz, après une première entreprise créée dans le web à Hong Kong, tu as changé ta façon de vivre pour un mode de vie éco-responsable suite à une prise de conscience via le livre de Bea Johnson, Zero Waste Home. Ce déclic t'a poussé à créer ta seconde entreprise, No Waste, et ta mission aujourd'hui est d'inciter un maximum de monde à réduire leurs déchets et leur empreinte carbone via des conférences et webinaires positifs et déculpabilisants. Depuis quelques mois, tu prépares un tour de France à bord d'une tiny house. Hello Fanny.
Salut.
Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur l'Aléa pour parler donc de ton parcours, de tes prises de conscience et des risques que tu as pris pour devenir la Fanny alignée d'aujourd'hui. Pardon pour ma voix, j'ai la voix un petit peu cassée, mais ça va le faire quand même. Première question que j'ai envie de te poser qui est très simple, mais comment tu vas ?
Ben écoute, ça va. Beaucoup mieux, en tout cas beaucoup plus posé qu'à Hong Kong, là où je vivais avant. Toi-même, tu sais, là-bas, c'est la vie un peu à 200 à l'heure. Donc non, là, je suis contente d'être rentrée, ça fait du bien.
Donc ouais, tu le disais, tu as vécu à Hong Kong, c'est là où on s'est rencontrés. Tu as vécu 8 ans.
C'est
et tu as créé ta première société NetPom là-bas. Ta deuxième société, là j'étais déjà partie, où tu as créé donc Now No West. Et tu es rentrée en France il y a quelques mois pour être au plus près de tes valeurs. Et j'ai envie que tu me racontes dans les grandes lignes ton parcours en fait sous l'angle de sortie de ta zone de confort et de prise de risque, qui est mon sujet de podcast. Si tu peux un petit peu nous en parler sans rentrer dans les détails.
Bah écoute, c'est vrai que quand je suis arrivée à Hong Kong, j'étais allée là-bas pour un tout autre secteur d'activité qui était le mannequinat. Et j'avais en fait cette passion, moi, qui était de développer des sites internet. Et c'est vrai qu'après qu'on m'avait dit que Hong Kong, c'était la meilleure ville pour monter son business, voilà, j'ai cru les gens. Et en effet, ça s'était avéré véridique. Donc c'est pour ça que j'ai monté là-bas, à peine arrivée sur place, mon agence web. Et du coup, c'est vrai qu'administrativement, c'était beaucoup plus simple qu'en France, par exemple. Et je me suis pas trop posé de questions, est-ce que je pouvais en vivre ou pas. Je me suis tout simplement lancée dans l'aventure et je me suis dit, écoute, quitte à essayer, autant le faire sur place. Donc j'ai essayé et ça a bien marché, donc j'étais super contente. Et pareil pour ma deuxième société, quelques années plus tard, quand j'ai eu cette prise de conscience écologique là et que j'ai créé Now No Waste, et ben c'est pareil, j'avais aucune compétence dans l'import-export de produits. Je faisais des sites, oui, mais j'avais jamais fait de site e-commerce. C'est juste que j'ai vu qu'il y avait un besoin à répondre, parce que moi-même je trouvais pas les produits zéro déchet sur place, donc je me suis dit tiens, je vais faire ça en fait. Je vais répondre à cette demande et puis si je pense que il devrait y avoir plus ce genre de produits là-bas, peut-être que je suis pas la seule à penser ça. Donc en fait, je me suis lancée là-dedans sans aucune compétence non plus. Et Et ça a marché, de nouveau, donc c'était plutôt cool. Et voilà, je me suis jetée dans la gueule du loup et ça s'est bien passé. Ça a duré 2 ans, c'était 2 ans incroyables. Et ensuite, pareil, ben, de là, je suis devenue conférencière parce qu'en fait, les compagnies me demandaient d'aller encourager en fait leurs employés à réduire leurs déchets. Et pareil, j'avais jamais fait de conférence avant. Enfin, mon anglais était approximatif, tu vois, même après 6 ans à Hong Kong. Bon, voilà. Et du coup, bah ouais, la première conférence, j'étais assez stressée. Enfin, pour tout te dire et pour être honnête, au début, quand la personne, en fait, ça s'est fait comme ça, la toute première conférence, c'est quelqu'un qui m'a proposé un créneau horaire, en fait, dans leur événement Green. Et ils m'ont dit, Fanny, on a une heure, tu peux parler de ce que tu veux, et donc, si possible, de la réduction des déchets. Comme tu es dans ce domaine-là, et vas-y, et tu fais ta communication, et tu parles de ça, et t'invites, il y aura 40 personnes. Oh, et là, gros stress, pareil, enfin, j'ai mis un mois à me décider, le mec, elle arrêtait pas de me relancer. Et là, ben, j'ai parlé à mon père, parce que mon père est toujours de bon avis, et il m'a mis un gros coup de pied au cul. Et il m'a dit, ben non, tu y vas, et les peurs sont faites pour être enlevées, quoi. Donc, si t'as une peur, c'est très bon signe, il faut que tu la surmontes. Et que tu ailles de l'avant. Donc j'ai fait, bon, allez, ça se voit que c'est pas toi qui va parler devant 40 personnes en anglais, mais bon, ok, vas-y, allez, c'est parti. Donc j'ai dit oui, parce que je me suis dit que dans tous les cas, ça peut être qu'une bonne expérience. Donc certes, la première conférence n'était pas parfaite, j'ai fait plein d'erreurs, mais au final, bah, ça m'a mis le pied à l'étrier, et c'est comme ça que j'ai commencé à donner des conférences sur place. Donc au final, ouais, après, j'ai arrêté mon activité de site internet, je me suis concentrée sur l'éducation, j'ai fini par faire des conférences à temps plein. Et voilà. Et aujourd'hui, je me lance pareil dans un tout autre domaine en France, mais ça, peut-être que je peux en parler.
On va en parler un petit peu plus tard. C'est okay. Génial. Et ce déclic, donc pour le zéro déchet, je me souviens, tu m'en as parlé. On prenait un café à Paris et tu m'en as parlé à ce moment-là. Et c'était suite à la lecture d'un livre de Bea Johnson. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce déclic?
Et ben en fait, ce déclic-là, c'était assez simple. Je venais de revenir à Hong Kong au bout de 5 ans, et en fait, parce que j'avais fait une pause entre-temps, et à ce moment-là, je tombe sur un article sur Internet montrant la photo, en fait, de ce bocal rempli de déchets non recyclables. Et le titre de l'article, c'était « Voici les déchets annuels de cette famille de 4 personnes ». Et j'étais là « Non, mais c'est le Gorafi, ou ça doit être une fake news, tu vois, c'est pas possible ». Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vrai. Et en effet, c'est ça qui m'a choquée, en fait, visuellement, de voir ce bocal qui fait la taille d'un pot de confiture de bonne maman, tu vois. Et la nana mettait, en fait, dedans, avec son mari, ses 2 enfants et leur chien, tous leurs déchets d'un an dedans. C'était leur poubelle sur une année. Et j'étais là, c'est quoi ce bordel? Et du coup, ben, c'est ça qui m'a, en fait, fait prendre conscience. De là, quand je me suis renseignée sur cette personne, j'ai vu qu'elle avait fait un livre. Et moi, qui aimais pas du tout lire avant, ben, c'est un des premiers livres, en fait, que j'ai vraiment lu, mais à une de ces vitesses grand V. Et c'est ça qui m'a donné ce déclic-là, quoi.
Et est-ce que tu avais cette sensibilité green avant ou pas
vraiment ? Pas du tout. Pas du tout. Alors après, comme toutes les personnes, je pense qu'on a un peu... c'est pas vraiment une sensibilité, mais c'est un peu de bon sens, tu vois. Quand on part d'une pièce, on fait toujours attention à pas laisser la lumière allumée, ou on essaie de pas prendre de bain trop souvent parce qu'il y a trop d'eau, enfin, pour économiser l'eau. Ou on essaie de faire le tri. Enfin, ça, c'est les choses un peu basiques, si tu veux, mais j'appelle pas ça une sensibilité, parce que moi, à l'époque, bon, bah, ça me préoccupait pas plus que ça, quoi. Et c'est vrai que le fait de voir ce bocal, et le fait de m'être dit, d'une, c'est un super challenge, c'est une bonne cause, c'est donc pour avoir une meilleure planète, et en plus de ça, t'as une meilleure santé, parce qu'il y a moins de perturbateurs endocriniens, c'est plus économique. Donc je me suis, en fait, quand j'ai vu tous les avantages, je me suis dit, ben allez, je vais essayer de faire pareil.
Top. Et quand on parle de dépasser ses peurs, enfin, il y a une question que j'aime bien poser dans le podcast. C'est en fait, quand tu as eu l'idée, comment tu es passé en fait de cette idée à l'action? Surtout dans un pays comme Hong Kong, qui n'est pas réputé pour être très axé Green. Toi, en fait, quelles ont été les premières étapes que tu as mises en place? Si tu peux nous raconter, en fait, comment tu as mis en place, en fait, ce site internet et ce concept?
Et ben, en fait, c'est vrai que moi, je suis très, comment dire, je suis très dans l'action, quoi. Je me pose pas 36 000 questions à savoir est-ce que le business va marcher, est-ce qu'il y a des concurrents qui l'ont déjà fait. Enfin, voilà, je suis très, dès que j'ai une idée, je fonce. Et pour moi, il n'y a pas de plan B, tu vois, il n'y a que le plan A. Donc en fait, je me fonce dans cette idée-là que j'ai. En fait, quand je vois qu'il y a vraiment un besoin, enfin, et que je crois vraiment à mon idée, et tu vois, et que ça me donne les papillons dans le ventre, et ben j'y vais. Et du coup, pour le site internet, c'est vrai qu'il y avait en effet quelqu'un qui avait déjà créé un site sur place, qui venait de le créer au moment où j'ai eu l'idée, donc j'étais un peu déçue, mais c'est pas ça qui m'a empêchée au final de le faire, et ouais, et du coup j'ai vraiment commencé par contacter les marques, faire un petit PDF me présentant et présentant un peu le site, comment je le voyais. J'avais même pas encore de nom de marque à l'époque, enfin tu vois, c'était vraiment à l'arrache. Et pourtant, bah, ça a quand même marché, quoi. Donc, comme quoi, parfois, il ne faut pas trop se poser 36 000 questions. Si tu crois vraiment en ton projet, même, enfin, bah, rien n'est parfait, tu vois. Et du coup, bah, faut se lancer. Faut éviter. Et quand tu as une peur, justement, bah, comme mon père me l'avait fortement conseillé, c'est de la surmonter et d'aller vers l'avant, quoi.
Et quels étaient tes critères pour les marques que tu sélectionnais pour mettre sur ton site?
Alors, les critères, c'était... Surtout avoir des produits qui étaient pas emballés dans du plastique, déjà, parce que le but du site, c'était de vendre des produits zéro déchet, donc les emballages devaient être au moins en carton, si possible en carton biodégradable avec des encres qui, elles, sont pas nocives pour l'environnement. Si possible, des produits aussi naturels, sans produits chimiques dedans, aussi bio, vegan, pour les produits cosmétiques. Et voilà. Et des produits aussi réutilisables. Ça, c'était le mieux pour tout ce qui est paille, etc. Voilà.
Et donc, tu as vécu cette belle aventure pendant quelques années. Et tu as dépassé tes peurs et tu es devenue conférencière. Est-ce que tu peux nous raconter comment... Enfin, tu la disais un petit peu en te présentant, mais est-ce que tu peux nous parler de cette activité et...
En effet, c'était lors d'un événement du coup, ouais, qu'on m'a proposé en fait de donner une conférence, alors que c'était pas du tout mon dada, quoi. Enfin, c'était vraiment le fait de sortir de sa zone de confort. Hein. C'était vraiment pas un plaisir pour moi. J'en ressentais l'envie parce que je voulais vraiment. À chaque fois, tu vois, que je parlais avec des amis autour de moi. Et que je voyais que je réussissais à les influencer d'une certaine manière, parce qu'après ils m'appelaient en me disant « Fanny, il y a deux savons, il y en a un emballé dans du plastique qui est naturel, mais l'autre il est dans du carton sans huile de palme, je fais quoi ?» Enfin tu vois, donc je voyais que je réussissais à encourager les gens autour de moi à changer un peu leurs habitudes. Et j'étais forte un peu là-dedans, en fait quand je pense que n'importe qui, quand tu parles avec passion, t'arrives à... Enfin ton aura est différent et t'arrives à prendre les gens avec toi,
les gens.
C'est ça. Et du coup, on m'avait déjà fait à plusieurs fois la remarque comme quoi il fallait que je me lance là-dedans. Et là, quand la personne m'a proposé de faire une conférence, ouais, j'avais le bide. Enfin, j'étais vraiment ultra stressée. Je voulais pas. Hein. Pendant un mois, j'ai pas voulu. Et finalement, je savais que c'était une bonne idée, mais c'est juste que j'osais pas sortir de ma zone de confort, tu vois. Et après, j'ai dit oui. J'ai fini le PDF le jour même de ma conférence, genre une demi-heure avant de passer devant tout le monde. Bah, tu vois, c'était vraiment ric-rac. Et au final, ça s'est bien passé. Et puis voilà, et après, quand les autres entreprises, elles, m'ont demandé de venir, je me suis dit, ok, tu vois, évidemment, c'est pour la bonne cause, donc évidemment que je viens chez vous pour en parler, il n'y a aucun problème avec ça. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça s'est fait tout naturellement.
Et ça s'est fait rapidement, du coup, au bouche à oreille, c'est les entreprises qui t'ont contacté ou c'est toi qui allais les voir? Ouais.
C'est ça. En fait, le site avait une très bonne notoriété vu que c'était un des premiers sites à se lancer là-dessus. Donc, les gens nous connaissaient via les marchés ou via Internet. Et du coup, tout naturellement, enfin, vu que j'étais assez bonne dans la communication et que je parlais, la première conférence, tu vois, j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux. Et puis petit à petit, en fait, les entreprises, en effet, m'ont contactée. Et tu sais, à Hong Kong, tout va vite. Donc dès que t'en as une qui te contacte, la semaine d'après, t'en as trois autres. Et puis ça a fait effet boule de neige. Et au final, c'est vrai que là-bas, je faisais 4-5 conférences à l'année, quoi. Alors qu'en France, c'est un peu plus délicat.
Ah oui. quelle était et quelle est, puisque tu continues, ton intention avec ces conférences? Est-ce que tu peux nous faire passer les grandes idées, pas forcément nous dévoiler conférence, mais les grandes idées, ce que tu enseignes?
Tout simplement, la première idée que je veux faire passer, c'est vraiment qu'il est possible de changer son quotidien et de réduire ses déchets physiques, ces déchets qu'on retrouve dans la poubelle. Ça, c'est les premières choses. C'est vraiment la partie principale de la conférence, ça fait à peu près 80% de la conférence. Et ensuite, à la fin, en fait, je parle notamment de comment on peut aussi réduire ses déchets lorsqu'on est dehors, donc quand on va faire ses courses, avant de les amener chez soi, tu vois. Comment on peut aussi réduire ses déchets en entreprise, quand on va travailler, et aussi des idées pour les dirigeants qui participent à la conférence, ceux qui ont vraiment un pouvoir d'action, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place, en fait, dans leur boîte. La troisième, c'est comment on peut aussi célébrer, donc que ça soit des anniversaires, Noël, Halloween, quelles sont les idées pour aussi célébrer en faisant le moins de déchets possible. Et ensuite, à la fin, je termine sur le fait que réduire ses déchets, d'une part, c'est très bien, puisque c'est quelque chose qu'on voit, en fait. Donc, si tu veux, les gens, ils sortent leurs poubelles, tu vois. Donc, c'est physique, c'est visuel. Mais le plus important, en fait, c'est vraiment réduire son empreinte carbone, réduire ses émissions de CO2 qu'on émet naturellement, j'ai envie de dire, dans l'atmosphère. Et donc, du coup, pour cela, pour avoir beaucoup plus d'impact, je termine ma conférence sur comment réduire son empreinte carbone via notamment en parlant du transport, du logement, de l'argent surtout, et aussi des biens de consommation, et voilà.
D'accord.
Et l'alimentation, pardon, j'avais oublié.
Ok. Et je crois qu'il y a une méthode, c'est les 5 que j'ai entendues.
Oui, 5 c'est R. Ça. C'est ça. Alors, en effet, oui.
Tu peux juste nous expliquer dans les grandes lignes ce que c'est.
Premièrement, en fait, le premier R qu'il faut. C'est la règle des 5 R, ça a été donc créé par Bea Johnson. Elle préconise de les utiliser évidemment dans l'ordre, sinon ça n'a aucun sens. Le premier R, c'est de refuser, en fait, donc de refuser tout ce qui vient chez soi. Que ça soit les goodies, les flyers, les cartes de visite, tout ça. Le deuxième R, c'est de réduire ce qu'on peut pas refuser. Le troisième, c'est de réutiliser un maximum ce qu'on a chez soi. Donc les bocaux en verre, choisir vraiment des choses qui sont réutilisables et non pas jetables. Et la quatrième, seulement à la fin, c'est tout le reste, de les recycler si c'est possible. Donc de favoriser des choses qui sont plutôt en verre, qui eux sont recyclables 9 fois sur 10 comparé au plastique qui n'est que une fois sur 4. Et ensuite, de rendre à la terre, donc de composter le reste. Donc là, on parle de tout ce qui est déchets organiques, de la cuisine, etc.
D'accord. Super intéressant.
Voilà.
En juin de cette année, nouveau projet pour Fanny que j'ai vu partout sur les réseaux. J'ai vu pour la première fois sur ton compte Instagram que tu parlais de Tiny House et de tournée Tiny House qui est arrivée un petit peu après. Comment t'es venue cette idée? Est-ce que c'était aussi un déclic?
Alors, pour les Tiny House, il y a quelques années, j'étais tombée sur des vidéos de Tiny. Et ça m'avait vraiment beaucoup plu, parce qu'en fait, c'est vraiment... Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les tiny houses, ce sont des micro-maisons qui sont sur une remorque, la plupart du temps. Elles peuvent être sur des fondations, mais la plupart du temps, ce sont sur remorque. Et du coup, après, on peut utiliser cette micro-maison, soit pour se déplacer, ou bien pour changer de région quand on le veut, ou changer de pays quand on veut, etc. Et il y a plein d'avantages à ça, hein. C'est évidemment réduire son empreinte sur la planète, réduire ses possessions... avoir un mode de vie plus simple, il y a vraiment énormément d'avantages. Et du coup, c'est vrai que quand j'avais vu ça, je me suis dit que ça serait pour le moyen terme un bel objectif de vivre dans une tiny house, sachant que, comme je te l'ai évoqué précédemment, le logement fait partie aussi de l'empreinte carbone, tu vois. Donc plus on vit dans un dans quelque chose de grand, plus on consomme, plus on a une empreinte élevée sur la planète. Et donc, du coup, moi, dans ma suite logique des choses, si tu veux, vu que mon objectif, c'est vraiment de réduire mon empreinte carbone le plus possible dans ma vie perso, ben, je me suis dit que vivre dans une tanie, ça serait cool. Et en fait, il y a un an de ça, je parlais avec une amie à Hong Kong, justement, juste avant de partir, et elle m'a dit, mais Fanny, où est-ce que tu vas te poser une fois rentrée en France si jamais tu construis ta tiny house, quoi? Et moi, n'ayant pas vécu en France depuis 8 ans, je me suis dit, ben mince, ben je sais pas dans quelle région me poser. Mais après, vu que c'est sur remorque, ben c'est là qu'elle m'a dit, mais utilise le côté nomade et fais une tournée de conférences. Et vu que t'as envie de continuer à faire ton métier et à sensibiliser les gens, ben fais ça. Et j'étais là, mais grave. Et en fait, c'est de là, de ce dîner-là, de cette idée, qu'est parti bah, ce projet un peu fou de parcourir la France, les régions, aller à la rencontre des gens et continuer à sensibiliser les gens à la réduction donc, des déchets et de l'empreinte carbone, tout en vivant dans ma tanie et vraiment, enfin, tu vois, quelque chose d'humain, quoi, où on rencontre les gens et où les personnes peuvent venir dans la tanie, voir un peu, bah, tu vois, qu'est-ce que c'est que des toilettes sèches. En fait, vraiment mettre en pratique toutes ces solutions-là qui nous permettent de réduire soit notre consommation d'eau, d'électricité ou de déchets. Et en fait, que les gens voilà, soient curieux, viennent voir et peut-être après, évidemment, ils peuvent aussi le faire chez eux, quoi. C'est l'objectif.
Et comment ça se construit une tiny house? Est-ce que tu la construis toi-même? Est-ce que tu fais appel à des constructeurs spécialisés? Je sais pas trop.
J'y connais rien, donc... tu peux évidemment la faire construire par des pros. Après, c'est vrai que le prix n'est pas le même. Pour construire une tiny à l'heure actuelle, il faut compter entre 40 et 80 000 euros. Après, tout dépend des options que tu mets, du nombre de fenêtres que tu as, parce que les fenêtres, ça coûte cher, de la taille de ta remorque, de la taille de ton habitat. Donc tout ça, c'est vrai que c'est des choses... voilà. Après, il y a quelques années, les constructeurs, vu que c'était pas encore très connu, te faisaient une tiny house pour 20 000 euros. Tu vois. Aujourd'hui, les prix ont doublé et dans quelques années, les prix augmenteront évidemment parce que ben, la loi de l'offre et de la demande. Bien que je ne sois pas trop d'accord avec ce principe, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, en effet, il y a de plus en plus de personnes, la plupart des gens, en fait, auto-construisent leur tiny house. Et moi, c'est ce que je vais faire. Et pareil, ben là, encore une fois, je n'y connais rien en construction. Je n'ai jamais changé d'ampoule ni monté de meuble IKEA de ma vie. Et pourtant, ben, je vais quand même me lancer dans l'auto-construction de mon habitat, de ma maison, parce que j'ai envie d'apprendre et ça me fait pas peur. Et du coup, ben, même si j'y connais absolument rien, ben, je vais apprendre sur YouTube. Je vais apprendre en demandant des conseils aux gens. Je vais apprendre... en appelant bah, des professionnels du métier, tu vois, voir s'ils peuvent m'aider. Et puis voilà. Donc, voilà un autre projet.
Waouh.
dans lequel je sors encore une fois de ma zone de confort, quoi.
Et c'est ta génial. Date de départ est prévue pour quand?
Alors, idéalement, je voulais partir en avril prochain, mais bon, là, avec le Covid et puis avec... bah, en fait, je me rends compte que ça prend beaucoup plus de temps parce que je ne vais pas me dépêcher pour le choix de la remorque, le choix des fournisseurs, etc. Donc, je veux vraiment faire les choses bien. Et du coup, je pense que ça sera plus l'été prochain que je partirai sur les routes.
Et vivre en tiny house, pour toi, c'est un projet à court terme, donc pendant ta tournée, ou même à long terme, quand tu reviens, tu envisages ce type d'habitat?
Non, moi, c'est sur du long terme. Après, la tournée, je ne vais pas la faire tout le temps parce que j'ai déjà eu, évidemment, des remarques. Et aussi, enfin, évidemment, les gens, quand on leur dit que c'est itinérant, bah, ils pensent à la pollution que ça va engendrer, ce qui est normal. L'idée, là, c'est vraiment de ne pas polluer et donc, du coup, de ne voyager que 6 mois dans l'année. Donc, les 6 mois de beau temps pendant lesquels je pourrais recharger avec l'énergie solaire. Bon, après, on n'a pas forcément 6 mois de beau temps en France, mais enfin, voilà. Et entre avril et septembre, et ensuite, le reste du temps, bah, de rester sédentaire sur un terrain pendant l'hiver, quoi.
D'accord.
Voilà, donc, voilà, ouais.
C'est une question que je me pose, mais t'es pas obligée de répondre, mais c'est une question que j'ai envie de te poser. Est-ce que tu laisses la place à la vie de couple, à la vie à deux, dans ce type d'habitat?
Très bonne question. Ben, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, étant célibataire, pour moi, c'est un projet que je fais seule. Après, souvent, on m'a dit que c'est vrai que c'est mieux de le faire à deux. Oui, bon, bah écoute, il n'y a personne, donc moi, je continue
vas pas attendre.
À faire ma vie. Tu vois, je ne vais pas attendre, ça, c'est sûr et certain. Et oui, je laisse une porte ouverte à la vie de couple. Si je rencontre quelqu'un, on verra, mais c'est sûr que cette personne... ben, je pense que pour n'importe quel couple, hein, des valeurs doivent être communes, tu vois, ou penser un peu dans la même direction. Et du coup, Ben, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mode de vie tiny house peut se faire en effet en couple, voire même en famille. C'est pas quelque chose que tu peux changer. C'est assez amovible. Enfin, c'est vraiment personnalisé. En gros, la tiny, si jamais un jour tu veux rajouter une mezzanine pour ton enfant, tu peux. Ou tu peux même le prévoir en amont. Moi, il y aura 5 couchages, donc ça sera... Ok, tu vois, si jamais un jour j'ai un bébé. Et il y a même des familles qui partent sur la route et qui ont genre 4 enfants. Donc vraiment, non, c'est possible. Donc moi, c'est vraiment à long terme que je vois ce projet de tiny house. Et puis ça me fait pas peur si jamais demain j'ai un chéri ou j'ai une famille avec des enfants, ben ça sera très bien comme ça.
Et justement, en parlant d'entourage, est-ce que tu sens que toi, toutes tes actions commencent à changer un peu les mentalités par rapport à l'environnement ? Quel est ton avis, en fait, sur la société à ce sujet ?
Ouh, gros débat. Alors, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes, en effet, qui ont cette prise de conscience, notamment due au Covid. Mais je vois aussi l'inverse, c'est-à-dire que je vois aussi des personnes qui ne font aucun rapprochement entre le Covid et la crise écologique et qui continuent à penser qu'il faut sauver l'économie, qu'il faut continuer à consommer, qu'il faut qu'on retrouve notre monde d'avant. Et c'est marrant que tu m'en parles, Laura, parce qu'il y a à peine 2 jours, je parlais de ça avec un ami d'enfance. Et c'est vrai qu'on a eu ce débat assez enflammé sur ça. Et donc, du coup, c'était assez dur, en fait, de lui faire comprendre, en fait, que ben, malheureusement, tu peux penser, OK, à l'économie, mais l'argent ne te donnera pas d'oxygène, tu vois. Donc, en fait, j'essaye vraiment de mes discussions avec mes proches, de leur faire comprendre ben, que l'oxygène, la nourriture, tout ça, c'est la nature qui nous le donne et il faut en prendre soin. Donc, voilà, pour moi, c'est un peu une évidence, quoi. Quand les gens me disent l'écologie, c'est pas une priorité, ben, ça devrait. Ben, en fait, je pense que le terme écologie n'est pas forcément... que les gens, ils n'ont pas une bonne définition de ce que c'est que l'écologie, tu vois. Et du coup, voilà, enfin, moi, c'est con, mais quand je sais que les océans et les forêts me donnent tout mon oxygène, ben, maintenant, j'en prends soin, tu vois. Toutes mes actions dans ma vie de tous les jours se font en fonction de ça, de toujours avoir une empreinte faible sur la planète et en prendre soin et la respecter. Elle ne demande qu'à ça, au final, que ça, au final.
Tout à fait d'accord. C'est pas parce que je vis à Dubaï que je partage pas ça. C'est clair. Ouais. Pour s'éloigner un petit peu du sujet et pour être un peu plus dans le développement personnel, depuis que je te connais, et je pense que beaucoup pensent la même chose, tu sembles vraiment tout transformer en or et être extrêmement déterminée. Mais vraiment. Et sur un de tes posts Instagram, tu parles de tableau d'intention pour visualiser tes souhaits. Est-ce que tu peux nous parler de tes petites techniques pour réussir finalement à atteindre tes objectifs, tes outils?
Eh ben, en effet, donc le tableau, le tableau d'intention, c'est vraiment ultra important. En fait, je pense que, enfin, après, ça dépend de chacun, évidemment. Moi, je suis très visuelle, donc en fait, j'ai besoin d'avoir visuellement ces photos en couleur imprimées en grand qui montrent un peu ce vers quoi je veux me tourner. Ça peut être des photos, ça peut être juste du texte, mais en fait je veux vraiment tous les jours quand je viens devant mon bureau voir ce en quoi j'aspire, tu vois, voir mes valeurs écrites et voir quel est mon objectif à court terme, moyen et long terme. Là par exemple, tu vois à droite, si je regarde, bah, j'avais mis objectif global, bah, c'est continuer à inspirer les gens à avoir un mode de vie plus respectueux de la planète, et je te lis vraiment les mots noir sur blanc, quoi. Et après, voilà, donc bref, je vais pas aller dans le détail, mais vraiment, c'est parce que je suis visuelle, donc soit d'imprimer, soit d'écrire, en fait, et de voir ça tous les jours. Et il y a, c'est vrai, un livre qui m'a beaucoup aidée à ça, qui s'appelle The Miracle Morning. Donc, je sais pas trop le titre en français, je suis désolée. Peut-être que c'est la même chose. Et du coup, ça m'avait aussi vachement aidée sur le fait de... se lever tôt, de se mettre ces objectifs-là de visu, de faire l'exercice le matin. Enfin bref, enfin il y a vraiment plein d'outils. Et il y a aussi une autre chose que je recommande à chaque fois que je parle de ces habitudes-là et de ce changement en fait qui a été fait, je pense en moi il y a quelques années. C'était déjà il y a 10 ans maintenant. Et ben c'est tout simplement le séminaire d'Anthony Robbins, ce coach, tu sais, américain. Alors il y a plein de gens qui le détestent parce que justement ça fait trop américain, que les gens disent que c'est une secte, tout ça. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. J'ai participé en fait à ce séminaire il y a 9 ans. Et avant ça j'avais lu son livre. Et qui s'appelle Pouvoir illimité. Et en fait, c'est vrai que ça a fait un sacré déclic dans ma tête parce que à la suite de son séminaire, je me suis vraiment dit, en fait, tout est possible dans la vie. C'est juste des blocages mentalement qu'on se met. Et donc, à partir de là, en fait, quand tu sais ça, parce que bon, pour rentrer un peu dans le détail sur son séminaire de 4 jours, il y a qui s'appelle Unleash the Power Within. Et le premier jour, le premier soir, on marche sur le feu. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix que chacun fait. Mais il te conditionne en fait mentalement. Et à la fin, tu marches sur le feu, sur 5 mètres de braise ardente qui font plus de 200 degrés Celsius. Et tu ne te brûles pas. Et tu marches lentement, tu ne cours pas sur les braises. Et donc du coup, en fait, même si physiquement, il y a une raison pour laquelle tu ne te brûles pas, mentalement, c'est parce que tu as été assez préparé et tu t'es dit, je ne me brûlerai pas, je vais y aller et ça ira. Et du coup, ça va. Et donc, en fait, les gens de la team d'Anthony Robbins arrêtent les personnes si jamais ils voient que tu n'es pas prête. Si tu n'es pas assez dedans, on va dire, si tu n'as pas ton cri de guerre, s'ils voient que tu n'es pas, tu vois, et ben du coup, ils ne te laissent pas y aller parce que là, ils sauront que tu vas te brûler. Et moi, évidemment, j'ai marché sur le feu, je me suis pas brûlée. Et en fait, à partir de là, quand tu fais cette expérience-là, tu te dis, tout est possible dans la vie. Et en fait, les seules choses qui ne font pas la vie que j'ai aujourd'hui, c'est tout simplement des blocages mentaux. Alors après, je dis, ce ne sont pas les seules raisons, mais je pense que beaucoup de gens ont des rêves et ne les suivent pas parce qu'ils se mettent des barrières mentales. Et ça, c'est vraiment une des choses à modifier à l'intérieur de sa tête, quoi. Donc pour moi, voilà, quand on me dit impossible, non, pour moi, rien n'est impossible. Tu peux être qui tu veux dans la vie, il suffit de faire les bons choix, quoi.
Et pour ceux que ça intéresse, il y a un documentaire justement sur Anthony Robbins sur Netflix, oui, que j'ai vu et qui est assez incroyable.
Ouais. Alors, tous ces séminaires ne se passent pas comme celui-là, parce qu'il en a des différents. Il en a pour les business, il en a pour les particuliers, il en a sur des thématiques différentes. Moi, j'étais à celui qui était à Londres, parce qu'il ne vient pas en France. Je sais qu'il en fait, je crois, dans 5 villes dans le monde entier, notamment aussi en Italie.
Et il en a fait à Dubaï il y a 2 ans.
Ah, génial. Trop bien.
Il en a fait un à Dubaï, ouais. J'ai une amie qui est allée.
Ouais, c'est vraiment une expérience à part entière. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens, bon, moi je sais que j'ai mis mes économies là-dedans parce que ça coûtait assez cher son séminaire, mais au final, rien que de lire le livre, en fait, t'aide vachement à modifier tes croyances, quoi, tout simplement, et à aller plus loin.
J'avais une petite question.
Oui.
Merci beaucoup. J'avais une petite question entrepreneuriat. Si tu devais retenir, si tu avais des leçons en fait que tu retiens et qui te permettent aujourd'hui de conseiller les personnes qui souhaiteraient se lancer,
N'ayez pas peur, foncez, faites-le avec passion, ne laissez personne vous enlever cette envie de réussir. Tu vois, pour là, je viens de, en te disant ça, à chaque fois, en fait, je pense à le frère d'une amie qui me disait à l'époque, j'avais pas encore créé mon agence web à Hong Kong, j'étais revenue en France pour Noël. Et cette personne me dit, mais si ton agence web, ça marche pas, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, non, mais ça marchera. Pourquoi ça marcherait pas? Ah, mais tu sais, ça se trouve, les gens, ils vont pas payer des sites aussi chers, tout ça. Je lui dis non, ça marchera en fait. Et comme je t'ai dit en début d'interview, pour moi, il n'y a que le plan A, il n'y a pas de plan B. Parce que si tu commences en fait à te conditionner dans ton cerveau et à te dire « je ne vais pas réussir au cas où j'ai toujours ça », là c'est sûr que ça marchera pas parce que tu seras pas à 100% dedans, tu vois. Donc voilà ce que je peux conseiller aux gens qui veulent se lancer, c'est si vous pensez que votre idée est bonne et que vous en êtes sûr et que vous voulez vous lancer, ne laissez personne vous arrêter. Foncez et travaillez et faites ce qu'il faut pour arriver à terme à ce que votre projet soit viable, quoi.
On va finir par des petites questions rapides. Oui. L'idée, c'est vraiment d'y répondre rapidement. Ta ou tes citations préférées ?
J'en ai une, mais elle est un peu longue. Je peux quand même la dire ou pas ? Après, c'est plus sur... je vais te la dire et puis tu me diras ce que t'en penses. Alors, la citation, c'est... L'argent est devenu l'obsession numéro un des êtres humains sur la planète, mais ce n'est pourtant pas l'argent qui nous fait vivre. C'est la nourriture que nous mangeons, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les ressources naturelles qui nous permettent de nous chauffer et de nous soigner. L'argent n'est qu'un moyen d'obtenir toutes ces choses, mais aujourd'hui, pour obtenir de l'argent, nous les détruisons, comme si nous étions devenus fous. Je te donne cette citation-là parce qu'en fait, c'est pas celle que la plus connue ou la plus... mais c'est celle que j'ai partagée hier autour de moi. Et c'est vrai que cette citation-là résonne en moi. Et je pense que, comme je te le disais en début d'interview,
c'est
quelque chose de très important à retenir.
Non, mais tu as raison de passer ces messages. Ton prochain défi ?
Ah !
Alors, à part la tournée Tiny House...
Et pour en revenir à la citation que je t'ai donnée juste avant, mon prochain défi, en fait, c'est de vivre avec le moins d'argent possible. Tout simplement. En fait, il y a un an de ça, j'étais pas du tout dans cette optique. Quand je suis partie de Hong Kong, mon objectif, c'était de faire toujours plus de conférences, de trouver toujours plus d'entreprises pour vendre mes conférences et pour, évidemment, faire passer ce message. Mais après avoir lu le livre « L'homme sans argent » de Mark Boyle, en fait, tout est... Petit à petit, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma tête et je me suis rendu compte qu'en fait, le bonheur ne fait pas forcément... l'argent n'inclut pas le bonheur. Enfin, j'arrive pas à te dire exactement le fond de ma pensée, mais on n'a pas besoin d'argent pour être heureux et on peut vivre avec moins et être encore plus heureux qu'avant. Et donc, du coup, moi, c'est vraiment vers ça que je vais me tourner et mon objectif à long terme, c'est de vivre... avec le moins d'argent possible et le plus en autonomie,
Beau projet. Si tu devais retenir qu'une chose sur tout ce que tu as appris jusqu'à présent. Alors, tu as peut-être déjà répondu avant dans tes réponses.
Oui, je pense ne pas avoir peur ou quand on a une peur, l'affronter et passer. Et toujours croire en ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Écouter en fait ses ressentis et écouter l'intuition, ouais, et où est-ce qu'on veut aller. Et ne pas écouter en fait les autres qui vont te mettre des barres dans les roues ou qui vont te... ne pas écouter l'environnement qui va t'empêcher de réaliser tes rêves. Toujours croire en ses rêves et les réaliser.
Une question que j'aime bien poser. Quelles sont les questions que l'on te pose le plus lors de tes conférences ou sur tes réseaux sociaux ?
La question qu'on me pose le plus, c'est comment commencer en fait ? Comment, par quoi les gens doivent commencer pour avoir une empreinte moindre sur la planète ? Ça, c'est la question qui revient assez souvent. Parce que c'est vrai que durant les conférences, souvent, je donne beaucoup, beaucoup d'exemples. Et les gens, bien que ce soit des exemples concrets, il y en a trop en fait. Et du coup, ma réponse à ça, c'est tout simplement de regarder sa poubelle. Et de regarder qu'est-ce qu'on jette le plus et de se concentrer sur des alternatives réutilisables ou d'autres alternatives qui nous permettraient d'éviter ces déchets qui sont vraiment le plus en nombre dans la poubelle, quoi. Voilà.
Et ma dernière question, qui est ma question rituelle du podcast, ta définition du risque et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement.
Ma définition du risque... Alors là, tu m'en... se surpasser. Se surpasser, aller de l'avant. ne pas avoir peur de tout perdre, en fait, et croire en son projet, croire en son intuition. Pour moi, c'est ça la définition du risque. Sortir de sa zone de confort, quoi. Ouais. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, en fait, et c'est comme ça qu'on évolue.
Merci, Fanny.
Merci à toi, Laura.
Et voilà, cette interview est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez soutenir le projet de tournée de Tiny House de Fanny, je vous glisse le lien dans les notes de l'épisode. Et si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à me rejoindre sur le compte Instagram lalea.podcast pour retrouver les coulisses de l'épisode, mais également les meilleurs moments. À bientôt !